Vous écoutez, on lit pour vous.
Le vrai prix est-il en train de mourir? Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 25 mai 2025 dans la presse. L'inflation rend tout plus cher. La tarification dynamique, elle, rend tout plus incertain, plus frustrant aussi. Mais on n'a pas fini d'avoir l'impression de se faire avoir en magasinant. Les prix bougent partout, à notre insu, même sur des sites qui vendent des meubles et des vêtements. Vous pardonnerez ma naïveté, mais je croyais encore que les fluctuations de prix en fonction de l'offre et de la demande étaient limitées à quelques secteurs. Le transport aérien, les spectacles à grand déploiement, les courses avec Uber. Il n'en est rien. Une étude réalisée en Belgique par l'entreprise derrière l'application MOSC, qui surveille les fluctuations de prix en ligne, révèle une volatilité comparable à celle des crypto-monnaies. Pour en arriver à cette conclusion étonnante, le président fondateur de MOSC a mené une expérience simple mais originale. Il a créé en février deux portefeuilles fictifs de même valeur. Le premier a été investi dans trois crypto-monnaies populaires, Bitcoin, Ripple, Dogecoin, tandis que le second a été consacré à l'achat de biens de consommation courante, vélo, lave-linge, chaussures et tables. Les achats fictifs ont été réalisés sur des sites de grands détaillants soit Decathlon, Darty électronique, Zalando chaussures et La Redoute meubles et vêtements. Dans les deux mois suivants, le portefeuille de crypto-monnaie a perdu 24 %. Pendant ce temps, le prix du panier de biens a grimpé de 24 % avant de descendre et de terminer le test avec un gain de 14 %. Et si l'instabilité ne se trouvait pas là où on l'attend, m'a écrit l'auteur du test, Mathieu Guffen. Le résultat obtenu lui fait dire que magasiner des biens en ligne est devenu un acte spéculatif. La seule différence, dans un cas on le sait, dans l'autre on l'ignore, a-t-il déclaré au magazine financier Trends Tendance. À partir du moment où l'on n'achète pas ses chaussures pour les revendre à profit, parler d'actes spéculatifs me semble tiré par les cheveux. Mais l'exercice a le mérite de nous faire réaliser que les prix affichés en ligne varient plus qu'on pense et qu'il devient difficile de déterminer combien valent les choses. Surtout, devant pareille volatilité, comment savoir si on se fait berner? Personne n'a le goût d'être dans le doute et de vérifier les prix compulsivement, ce qui est très ironique après tout, puisque le commerce en ligne était censé nous faciliter la tâche. Il faudrait faire un test similaire au Québec pour savoir à quel point nos enseignes préférées utilisent la tarification dynamique. Mais pourquoi se priverait-elle d'une technologie qui a fait ses preuves pour générer des profits? À mesure que la collecte et l'analyse de données se raffinent, tous les sites web sont capables de modifier leur prix en fonction du jour de la semaine, du moment dans la journée, de la concurrence, de la demande, des habitudes du client, des stocks disponibles ou même de la météo. Le prix d'un article en ligne peut ainsi changer plusieurs fois par jour, sans notification ni justification évidente pour les consommateurs. Ce n'est pas qu'une impression. Amazon modifierait ses prix 2,5 millions de fois par jour, de sorte qu'en moyenne, le prix d'un produit change toutes les 10 minutes. Autrement dit, le prix affiché ressemble à une suggestion aussi éphémère qu'un tweet. Ça ne s'arrête pas là. Les consommateurs présumés plus dépensiers ou plus à l'aise ceux qui utilisent un iPhone ou un MacBook coûteux plutôt que des appareils abordables, voient apparaître des options différentes, souvent plus chères, en tête de liste, lorsqu'ils cherchent des vols ou des chambres d'hôtel. Une poursuite a été déposée contre DoorDash, alléguant que des frais plus élevés étaient facturés aux utilisateurs d'iPhone, ce que l'entreprise a nié. Plus sournois encore, l'application Uber a été montrée du doigt par un journal belge qui a observé des prix supérieurs quand la batterie du téléphone de l'utilisateur était faible. Une personne dont l'appareil est en mode économie d'énergie est moins encline à attendre d'avoir trouvé une option de transport moins coûteuse, en a-t-on déduit. Uber a démenti, sans expliquer comment deux courses similaires commandées au même moment pouvaient ne pas coûter le même prix. Ne croyons pas que l'alimentation est à l'abri. Avec les étiquettes électroniques dans les épiceries, il serait possible de faire grimper le prix du poulet rôti sur l'heure du souper. Osera-t-on? Quand la chaîne de restaurants Wendy's a envisagé d'utiliser la tarification dynamique, les réactions négatives ont été instantanées. Pour l'instant, la meilleure arme reste l'information. MOSC recommande de surveiller les prix en ligne du mardi au jeudi ainsi qu'en soirée, car la demande est moins forte lors de ces périodes. C'est d'ailleurs ce que m'a soufflé à mi-voix une agente du service à la clientèle d'Air Transat, quand, un matin, je lui ai mentionné que le prix des billets d'avion proposés était inférieur de 60 $ quelques heures auparavant. « Il paraît, on me dit, que c'est moins cher en soirée. » Les plus motivés peuvent utiliser des applications qui font le suivi des prix. À elles seules, l'émergence de cette nouvelle industrie de surveillance est éloquente. Ces stratégies aident, mais très peu. Elles n'effacent pas le sentiment désagréable que quelqu'un, quelque part, a payé moins cher 5 minutes avant ou 5 minutes après nous. La tarification dynamique mine notre confiance, titille notre sens de l'équité et transforme chaque achat en pari. C'était « Le vrai prix est-il en train de mourir ?» un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 25 mai 2025 dans La Presse.
Rénover le métro, une longue et coûteuse opération. Un texte de Jeanne Corriveau, paru le 7 mai 2025 dans Le Devoir. Remettre à niveau le réseau du métro de Montréal représente une tâche colossale. Ce sont des investissements de plusieurs milliards de dollars qui seraient nécessaires pour la rénovation de ce réseau vieillissant et l'opération serait longue. Mais encore faudrait-il que la Société de transport de Montréal, STM, ait le financement pour y parvenir. Le plan annuel de gestion des investissements publics en infrastructure 2025-2026 du gouvernement du Québec révèle que 31 stations de métro sont maintenant considérées comme en mauvais état et qu'une part de 38% des tunnels a besoin de travaux importants. Parmi les stations ayant la cote E, en très mauvais état, figure la station Peel, où une poutre de la mezzanine est endommagée et présente un risque de chute de béton. Des murs intérieurs sont fissurés et posent un danger d'effondrement. De plus, la membrane d'étanchéité souterraine a besoin d'être remplacée. Une nouvelle membrane est aussi requise à la station de l'Église, classée E. À la station Champ de Mars, côté D, une bosse a été détectée sur la voie. La STM indique qu'il y a un risque de dommage pour les trains et que ceux-ci doivent ralentir à l'entrée de la station. La liste des problèmes est longue et peut paraître alarmante, mais la STM assure que le métro demeure sécuritaire. Professeur associé au département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM, Florence Junca-Adenou croit que les usagers peuvent continuer à prendre le métro avec confiance. Il n'y a pas eu, jusqu'à maintenant, de phénomène qui puisse entamer la confiance des usagers parce que la STM a une politique de transparence pour les travaux et les informations aux usagers, avance-t-elle. Selon elle, il n'est pas étonnant que le métro, inauguré en 1966, soit dans un tel état. On sait que tout ce qui a été construit dans les années 1960 fait l'objet maintenant de rénovations importantes, et en particulier tout ce qui était en béton. On commençait à construire en béton à cette époque. C'était comme ça dans tous les pays, rappelle-t-elle. C'est sur cette base qu'on a remplacé le pont Champlain et rénové le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, construit au même moment que le métro de Montréal. Trajectoire Québec indique faire confiance à l'expertise de la STM en ce qui a trait à la sécurité du métro. Les événements survenus aux stations Saint-Michel et Saint-Laurent montrent que des mesures sont prises dès qu'un enjeu de sécurité est détecté, signale Brian Nash, conseiller en communication pour l'organisme voué à la promotion des transports collectifs. Cela dit, des investissements à court terme dans l'entretien sont essentiels pour garantir la sécurité. Car le nerf de la guerre, c'est l'argent. Lors du dépôt du plus récent budget du gouvernement Legault en mars dernier, la STM avait dénoncé la réduction des sommes consacrées au maintien d'actifs des sociétés de transport. La Société de transport montréalaise avait notamment réclamé 585 millions de plus sur 3 ans, sans succès. Elle estime plutôt se retrouver avec un manque à gagner de 281 millions par année. Des déficits de maintien. La STM calcule avoir un déficit d'investissement de 6 milliards de dollars pour le maintien des actifs de son métro. Des investissements de 560 millions par année indexés sont nécessaires pour éviter que ce déficit s'accroisse, indique Amélie Régis, porte-parole de la STM. C'est donc dire que, même avec ces investissements, la STM ne ferait que maintenir l'état de ses infrastructures. L'ensemble du réseau continuera de vieillir. La STM n'est pas en mesure de dire combien d'années il lui faudrait pour remettre le réseau du métro à niveau, même dans les scénarios de financement les plus optimistes. À titre d'exemple, les travaux dans les tunnels sont la plupart du temps réalisés la nuit pour ne pas compromettre le service, à moins qu'une station ne soit fermée pendant quelques mois. De là l'importance de prévoir un financement prévisible et stable, estime Florence Junca-Adenau. Faudrait-il mieux freiner la réalisation de nouveaux projets comme le prolongement de la ligne bleue et le projet structurant de l'Est, ancien REM de l'Est, pour mieux prendre soin des infrastructures actuelles? Les gens vont dire qu'il faut faire les deux, mais moi j'ai tendance à dire que, quand on est mal pris, maintenons en bon état et faisons circuler ce qu'on a déjà. Ça permet d'éviter les baisses de clientèle parce que si le métro est trop souvent en panne, l'achalandage va diminuer et on ne sera pas plus avancé. C'était « Rénover le métro, une longue et coûteuse opération », un texte de Jeanne Corriveau paru le 7 mai 2025 dans Le Devoir.
Mieux connaître la nature à Montréal. Un texte de Marie Tison, paru le 24 mai 2025 dans La Presse. Il n'est pas nécessaire de s'éloigner de Montréal pour accéder à la nature ou pratiquer une activité de plein air. Il ne manque pas de grands parcs naturels dans l'île et lorsqu'on parle d'île, on parle aussi de cours d'eau, de faune aquatique. L'organisme à but non lucratif, GUEPE, groupe uni des éducateurs naturalistes et professionnels en environnement, veut justement aider les résidents à en profiter avec une gamme d'activités et de services de location. Ce qui me fascine chez les gens qui participent à nos activités, c'est l'émerveillement. C'est la découverte qu'ils font de la biodiversité autour de chez eux et dont ils n'étaient pas conscients. Qu'il s'agisse d'un site sur l'eau ou sur terre, affirme Nathalie Dion, directrice générale de GUEPE. Les gens apprécient la découverte, le fait d'apprendre, et ça les incite par la suite à faire attention à leur environnement. Quatre naturalistes ont créé GUEPE dans l'ouest de l'île de Montréal en 1991 pour, essentiellement, offrir des activités d'interprétation de la nature dans le milieu scolaire. Rapidement, le regroupement a élargi son offre au grand public, notamment dans les parcs nature. Il a établi un partenariat avec la ville de Montréal pour faire de l'animation dans ses grands parcs, soit par des randonnées guidées, soit par l'installation de kiosques d'information. On a ajouté le volet plein air aussi, après avoir vu qu'il y avait divers moyens d'amener les gens à parler de biodiversité, à s'approprier leurs parcs et à vouloir les protéger, indique Mme Dion. GUEPE a donc commencé à offrir des services de location de ski de fond dans des parcs nature ainsi que des séances d'initiation. Il a également repris un service de location d'embarcation à deux sites situés le long du boulevard Gouin, aux abords de la rivière des Prairies, en arrière de l'école Sophie Barra et au parc Beau Séjour. La structure est légère, un simple conteneur qui abrite kayak, pagaie et veste de flottaison. Il n'était pas possible d'avoir un pavillon d'accueil, surtout derrière l'école Sophie Barra, note Nathalie Dion. Mais on a tout ce qu'il faut pour bien accueillir les gens. L'équipement électronique, l'équipement de sécurité nautique. On a une bonne équipe, bien formée sur chacun des terrains, qui utilise les mêmes procédures de sécurité. Avec les années, le regroupement a ajouté un site au Parc des Anciens Combattants à Pierrefonds et un autre à la Plage de l'Est dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles. Cette année, GUEPE s'occupera également du site nautique de la plage du Cap-Saint-Jacques. Nous avons su développer au fil des années des offres diversifiées parce que nous voulons bien encadrer les gens, explique Nathalie Dion. Il y a des activités d'initiation pour les gens qui sont moins à l'aise en kayak, des activités d'éducation et, depuis quelques années, nous offrons des sorties de kayak au coucher du soleil sur la rivière des Prairies et au lever du soleil sur la plage de l'Est. GUEPE propose également des activités sur la terre ferme, plus précisément dans les grands parcs. Ça peut être avec différentes thématiques, ça peut être sur les oiseaux, sur les insectes, indique Mme Dion. On a beaucoup de beaux milieux naturels, de beaux parcs urbains à Montréal. On veut les mettre en valeur pour que les gens puissent en profiter. GUEPE continue évidemment d'offrir des activités pour les groupes scolaires et les camps. Le groupe exploite même deux camps de jour dans la métropole québécoise. Mais depuis quelques années, il vise également une clientèle bien différente. Les personnes âgées. Avec la pandémie, dit Nathalie Dion, nous avons dû revoir un peu notre offre de services. C'est alors qu'on a vu qu'il y avait un besoin pour des activités spécifiquement pour les personnes âgées. Il peut notamment s'agir de randonnées guidées qui se terminent par une causerie. Nous apportons des artefacts, des éléments de la nature, précise Nathalie Dion. C'est intéressant, tout le monde a des histoires à partager. GUEPE a établi une antenne à Charlevoix après qu'un ancien collaborateur s'est établi là-bas. C'est un beau terrain de jeu, continue Mme Dion. Nous sommes maintenant bien implantés, nous avons une programmation d'activités vraiment intéressante. Le groupe commence aussi à être présent en Estrie et entend offrir de plus en plus d'activités dans cette région. GUEPE a considérablement grossi depuis sa création. Le groupe compte environ 35 employés permanents, mais durant l'été, l'équipe peut compter jusqu'à 85 personnes. L'été, ça peut être des étudiants qui étudient principalement en biologie, indique Nathalie Dion. Nous voulons favoriser leur évolution là-dedans. Avec cette relève, les ratons laveurs, les grenouilles et les marmottes de Montréal n'ont qu'à bien se tenir. Ils n'ont pas fini de se faire interpréter. C'était « Mieux connaître la nature à Montréal », un texte de Marie Tison, paru le 24 mai 2025 dans la presse.
Femme de slam, un texte d'Émilie Revers, paru le 13 juin 2025 dans la Gazette des femmes. Quelle est la place des femmes sur la scène slam québécoise? Qu'est-ce qui les fait vibrer dans la discipline? Élément de réponse avec trois slameuses engagées, Sabine Assouyed, Annie Schneider et Elkana Talbi. Ce que je trouve intéressant du slam, c'est que c'est un art démocratique, c'est un art citoyen, confie Sabine Assouyed, présidente de l'organisme Les Incendies de Parole, dont le but est de mettre en valeur le slam et de le faire connaître. Pendant les soirées de slam de poésie, les participants ont 3 minutes pour se faire entendre, sans accessoires ni costumes. Puisqu'ils sont jugés par des membres du public, ça crée un spectacle dynamique, participatif. Selon Sabine Assouyed, la discipline est une, sinon la, plateforme par excellence pour évoquer la santé d'une société. Ça peut être ses enjeux, mais aussi quelque chose de moins grave. Au slam, tout le monde peut ainsi prendre part. Et plus de voix se font entendre, mieux c'est. Une parole qui fleurit. Le slam, c'est un terrain de rencontre et de partage qui fonctionne, constate l'artiste Elkana Talbi, qui s'est fait connaître dans le milieu sous le pseudonyme Queen K. Active sur les scènes slam depuis 2007, elle se réjouit de voir que les choses évoluent de façon positive. Il y a de plus en plus de femmes, de personnes de la communauté queer aussi, qui sentent qu'elles peuvent avoir une place et faire partager leur vécu, indique Elkana Talbi. Même son cloche pour l'herboriste poétesse Annie Schneider, qui pratique le slam depuis plus de 25 ans. « Les femmes sont de plus en plus nombreuses, c'est sûr, et ça me fait du bien d'écouter, de voir qu'il y a une très belle relève », souffle-t-elle, tout en soulignant qu'elles ont désormais tellement de choses à dire et à rattraper. Ce n'est pas tout. Les microscènes de slam fleurissent non seulement à Montréal, mais aussi en région. « C'est encourageant, c'est rafraîchissant », dit Annie Schneider. De fait, la Ligue québécoise de slam, LIQS, compte des équipes à Montréal, à Québec, à Gatineau, à Rimouski, à Rivière-du-Loup, au Saguenay et au Lac-Saint-Jean. Sabine Assouyed se réjouit en outre que toutes les générations s'initient aujourd'hui au slam. « Je trouve que les femmes plus âgées vont se prêter à l'exercice plus facilement ». D'après la présidente du regroupement Les Incendies de Parole, la diversité se fait de plus en plus belle. Le festival chapeauté par l'organisme, le Grand Slam international de Montréal, qui se tiendra en 2025 du 8 septembre au 9 novembre, traduit cette volonté de visibilisation. On essaye avec nos invités internationaux d'avoir une représentativité et une parité quand c'est possible, pour mettre en lumière des thématiques, des réalités différentes. Seul bémol, Amy Schneider et Elkana Talbi notent toutefois que le milieu francophone demeure légèrement à la traîne. « Je suis épaté de voir qu'il y a autant de variétés des origines chez les anglophones », dit Annie Schneider. Qu'importe, le slam québécois francophone est sur une belle lancée. Peut-être que ça mérite quand même qu'il y ait plus de femmes issues de la diversité, rapporte Sabine Assouyed. De l'importance du propos. Sabine Assouyed est également enthousiaste de constater que les slams se font plus engagés que jamais. Mais ça, on va le voir autant chez les femmes que chez les hommes. c'est peut-être les points de vue qui changent en fonction de l'individu. Elle remarque que les femmes sont plus enclines à aborder des sujets comme les violences à caractère sexuel, omniprésents depuis le mouvement « Moi aussi », mais aussi le racisme et les discriminations. La femme va plutôt interpréter son expérience, même si ça peut être fictif parfois, ajoute-t-elle. Lors des moments de partage que sont les soirées de slam, Sabine Assouyed trouve pertinent que les histoires racontées soient à ce point différentes. Il y a des thèmes qui sont universels, d'autres qui vont être peut-être plus genrés, mais ça va surtout dépendre des artistes. Il y a quelque chose de très organique, de très humain. Les gens se rendent quand même vulnérables à venir dire sur scène des textes très personnels, poursuit Sabine Assouyed. Le fait que les artistes soient jugés en direct peut s'avérer révélateur. Ça leur permet de vraiment se dépasser. Ça permet aussi une certaine forme de résilience lorsque quelqu'un a vécu des choses difficiles. Et Elkanat Elbi de renchérir, c'est en général un projet intime où on parle de ses vies, où on parle de ce qu'on voit autour de soi. Plus j'avance, plus je crois que je m'intéresse plutôt à la forme qu'au fond, signale Elkanat Elbi, qui souhaite pousser sa réflexion plus loin. Ce que j'aime écrire, c'est toujours en portant un regard sur la société. Comment parler de telle chose? Comment moi, je la vois? Quelle langue je choisis afin de trouver la façon la plus sincère, mais aussi la plus intéressante et percutante? Annie Schneider croit que ce qui compte avant tout dans le slam, c'est la passion transmise à travers la pertinence du discours et du sous-texte. Je me sens très à l'aise là-dedans, et je continue parce que ça m'amuse, que ça me fait du bien et que je passe des messages. Ces thèmes de prédilection? Je slame sur tous les sujets qui me touchent, mais chaque année, je fais un slam sur une plante. Même si ça dure 3 minutes, ça demande au moins 100 heures d'écriture et de correction pour vraiment raconter l'histoire de la plante du fond des âges jusqu'à aujourd'hui. Je décris l'aspect botanique, les conseils thérapeutiques, etc. Les questions sociales, environnementales, féministes ou encore sur la vieillesse font aussi partie de ce qui l'anime. Le slam n'est donc pas une compétition à gagner, mais bel et bien un art oratoire. Je concours pour passer des messages, faire rire et réfléchir, assure Annie Schneider. Elle en est persuadée. L'un des plus grands défis du slam, c'est de se faire comprendre, se faire aimer, car l'amour, avec l'ouverture d'esprit, c'est le meilleur des remèdes. C'était « Femme de slam », un texte d'Amélie Revers, paru le 13 juin 2025 dans la Gazette des Femmes.